Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, on vous offre un tour du monde tout en restant en France. Bah oui, on est cap. Bonjour Bruno Fulini.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes l'un de nos sociétaires, historiens et conteurs hors pair. Comme ça, ça vous met bien la pression. Comment est-ce que c'est possible de faire le tour du monde sans quitter notre pays, sans
se bien parce que la France est un vieux pays qui a une histoire très riche. Et alors, si vous commencez à fouiller un petit peu, eh bien, en prenant les petites routes, vous allez arriver dans plein de villages qui ont été fondés par des peuples venus de très très loin.
Alors, il y en a beaucoup de ces peuples-là dans l'histoire.
Oui, il y en a beaucoup. Alors déjà, si vous remontez aux grandes invasions, pensez pêle-mêle, les Sarmates, les Huns, les Téifales, les Agathyrs, des peuples absolument extraordinaires. Par exemple, les Agathyrs, c'était des gens très curieux qui vivaient tout nus dans des chariots, à l'intérieur de chariots, où ils vivaient en communauté, les femmes, les hommes, il n'y avait pas de mariage, pas de couple, tout le monde vivait comme ça.
Et ils n'avaient pas froid, ils vivaient dans le sud de la France ou
non,
en
mais
Bretagne, on n'oserait pas ça, nous.
Ils étaient des nomades et ouais. Leurs chariots allaient, on pouvait imaginer qu'ils suivaient un peu le rythme des saisons. C'est des chariots qu'ils remplissaient d'or, parce que c'était quand même des barbares et des pillards aussi, ouais. Mais ils savaient s'amuser et en particulier, leur corps était entièrement tatoué, ils avaient les cheveux teints en bleu, ce qui fait que les Romains les appelaient les Picti, les peints, du verbe peindre, et comme s'ils avaient le corps peint. Et Picti, ça a donné Pictave, Poitevin, c'est-à-dire que nos braves Poitevins d'aujourd'hui descendent peut-être de ces Agathyrs, ce tout nu et tout bleu, qui ont défrayé la chronique au temps des grandes invasions.
Voilà une première histoire qui donne envie d'en entendre beaucoup d'autres dans la curiosité. On a des Bélitres de la Seine, les Huns de Courtisol, les Mongoloïdes du Finistère. C'est parti.
La curiosité est un vilain défaut.
Douce France, cher pays de mon enfance.
RTL.
C'est ça, la France, c'est l'amour, la joie et l'espérance.
Thomas Hugues, Sidonie
Bonnet. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel, partager les soucis.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL. C'est ça la France, on l'adore, mais est-ce qu'on la connaît si bien? Pas sûr, tour du monde à travers la France inconnue, c'est le thème de notre voyage et le titre du livre passionnant et très joli aussi notre invité, l'historien Bruno Fulini, une publication des éditions du Trésor. Première découverte avec vous, direction la Seine, au cœur de Paris, et ses Bélitres. On est à quelle période de l'histoire, Bruno?
Alors nous sommes à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. On ne sait pas trop quand sont arrivés les Bélitres, qui étaient à la fois une curiosité et puis aussi une terreur pour les Parisiens. Alors, on ne sait pas grand-chose sur eux, parce que ceux qui ont voulu s'approcher, ceux qui ont joué les explorateurs, ne sont pas forcément revenus. Ils avaient plutôt mauvaise réputation. Ah oui. En fait, c'était une colonie de mauvais garçons, de mendiants professionnels, sans doute un petit peu de chourineurs, voleurs, etc.
Chourineurs, c'est quoi ?
Les chourineurs, c'est les gens qui manient le surin, le chourin, c'est-à-dire le couteau.
Ils venaient d'où ?
Et alors, d'après les rares sources qu'on a, ils venaient d'Irlande. Donc, imaginez, nous sommes à Paris, et au milieu de la Seine, il y a une petite île qui a disparu aujourd'hui, qui a été absorbée par la construction du Pont Neuf. Il y avait une petite île au ras de l'eau, avec des roseaux, des saules pleureurs, et là, il y avait une espèce de campement, avec cette population de rouquins un peu mal embouchés, qui vivaient là et qui, de temps en temps, eh bien, allaient rive droite ou rive gauche pour mendier, pour chaparder. C'était les Bélitres. Et donc, on est au cœur de Paris, on est tout près du palais du roi, si vous voulez. Et même là, eh bien, la puissance du roi de France est défiée par une petite colonie insulaire en plein milieu de la Seine. Et chaque fois que je fais les bouquinistes dans les passages, j'ai toujours un œil, parce qu'aujourd'hui, ça correspond à la pointe la plus à l'ouest de l'île de la Cité. Il y a encore aujourd'hui un saule pleureur, exactement à l'endroit où vivaient les Bélitres.
Donc des Bélitres qui, à la fois, font peur, puisque vous nous le disiez, ils vivent de rapines et puis ils peuvent être violents. Et en même temps, on peut imaginer qu'ils fascinent un peu les touristes. Est-ce qu'il y a une curiosité pour les Bélitres dans le Paris de cette fin du Moyen-Âge ?
Oui, il y a une vraie curiosité parce que c'est un autre monde à portée du regard. On voit au milieu de la Seine cette île avec ce campement, avec ces gens qui ont le poil roux, qui parlent une langue étrange qu'on ne comprend pas. Alors, à un moment, c'est sous le règne d'Henri III, donc on est à la fin du XVe siècle. On on commence à construire ce qui va devenir le pont neuf. Et puis, faute de fonds, on arrête la construction. Donc, il y a juste des éléments de construction, quelques piles plantées dans la Seine. Le pont n'est pas fini. Alors, les Parisiens vont mettre des planches pour essayer de s'approcher et pour prendre pied sur l'île des Bélitres, mais ils vont être très, très mal reçus.
Et pourtant, ils seront chassés, finalement, alors, ces Bélitres.
Et en fait, c'est en l'an de grâce 1606, hein, ouais. 1606. Là, c'est Henri IV qui est au pouvoir. Henri IV va achever le pont neuf, ce qui va un petit peu changer la vie des Parisiens, mais qui va être fatal aux Bélitres, puisque leur île va être annexée à l'ancienne île du Palais, ça va donner l'île de la Cité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une statue d'Henri IV au-dessus de l'ancienne île des Bélitres, qui a été en quelque sorte annexée par la France.
Mais ils sont morts, ces Bélitres? Alors, ou ils sont mélangés à la population? Ils ont
non,
été,
en fait, on a envoyé les archers du roi, c'est-à-dire une sorte de police militaire de l'époque, si vous voulez, et on les a mis dans un bateau, et ils sont partis par-delà les mers, donc ils ont été expulsés, nos Bélitres. Et ce qui est amusant, c'est que des fois, comme aujourd'hui, il y a des bateaux-mouches qui chargent du monde, et beaucoup d'anglo-saxons à cet endroit-là, je me dis qu'il y a peut-être de lointains descendants des Bélitres qui viennent visiter Paris et
on
qui
espère.
Descendent là.
Allez, on part dans la Marne maintenant, à la rencontre des Huns de Courtisol. Là aussi, quand et comment serait-il arrivé dans la région, Bruno Fellini?
Ah bah c'est très simple, hein. Il y a eu bien sûr une grande invasion de Huns menée par Attila, et vous savez qu'il y a eu en l'an 451 la grande bataille des champs cataloniques qui s'est traduite par la défaite cuisante des armées d'Attila. On pensait qu'Attila allait déferler sur Paris, il est arrêté en Champagne, d'ailleurs c'est à peu près dans cette zone-là qu'ont été arrêtées toutes les offensives venant de l'Est historiquement, c'est tout près de Valmy. C'est pas très loin de Verdun. On est vraiment dans ce périmètre où le sort de la France s'est joué mille fois.
Alors pourquoi les Huns de Courtisol? Pourquoi ils sont là dans cet endroit particulièrement? Pourquoi ils ont attiré votre attention, Bruno?
Alors il se trouve que j'ai vécu dans ce coin-là et que j'avais entendu parler de cette légende, un village qui s'appelle Courtisol, qui est très particulier et dont on dit qu'il a été fondé en fait par les Huns blessés. Nous sommes au lendemain de cette bataille. L'un des sites présumés de la bataille est tout près et donc on a supposé que des Huns un petit peu éclopé, plutôt que de repartir, c'est loin l'Asie centrale, hein, c'est loin la Mongolie, et bien voilà, se sont installés là, se sont sédentarisés et sont devenus des paysans français, mais avec un certain nombre de particularités.
Dont un patois
et dont un patois ou une langue. Ouais. Et alors la grande chance que nous avons, parce qu'évidemment comme tous les patois, ça a quasiment disparu aujourd'hui, mais en 1905 il y avait un instituteur qui a collecté tous les mots, ce qui fait que j'ai eu accès à un véritable vocabulaire.
Vous parlez le 1 maintenant.
Je peux vous dire des phrases en 1, par
alors,
exemple.
Une petite
rapide, très rapide. Par exemple, c'est Udweich Krale Ino de Schaldash Flicardeux.
Oh bah dis donc, ça va.
Pas mal. Ça n'est pas désagréable.
Vous voyez, vous accueille et ça veut dire quoi, vous savez?
Alors c'est très, très barbare. Hein. C'est je vois un feignant qui râle, faut le fouetter.
Je dirais ça à Thomas. Mais il n'est pas feignant, ça ne marchera pas. Connaissez-vous les Francs de l'Alsace-Bossu, les Écossais du centre de la France ou les Mongoloïdes du Finistère? Moi, je crois pas. On continue notre Tour de France méconnu, sur
oui,
RTL.
Tout simplement.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La France, terre d'accueil, est depuis très longtemps, depuis des siècles, depuis des millénaires. C'est ce que l'on découvre, ce que l'on raconte avec l'historien Bruno Fellini. On part maintenant en Alsace avec vous, Bruno, pour découvrir ces Francs de l'Alsace-Bossu. Déjà, l'Alsace-Bossu, je la découvre. C'est où précisément?
Alors, l'Alsace-Bossu, donc, c'est une partie du département du Bas-Rhin qui est au contact de la Lorraine, si vous voulez. On est vraiment à la frontière. Et alors, il y a deux étymologies. Soit on l'appelle Alsace-Bossu, Bossu à cause de son relief particulier, soit on l'appelle ainsi parce que sur une carte elle forme comme une petite bosse sur le département du Bas-Rhin. En fait, on l'a rattachée au Bas-Rhin, mais historiquement c'est une zone tout à fait particulière, puisque de très longue date, c'est une enclave allemande protestante dans le royaume de France. Vous savez qu'en Alsace, on parle l'alsacien, en tout cas beaucoup de gens le parlent toujours, alors que dans cette partie-là, on parle une langue, évidemment germanique, mais complètement distincte, qui est le francique. Et là où c'est fascinant, c'est que le francique, c'est la langue de Clovis. C'est la langue que parlaient autrefois les Francs. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que...
Parce qu'il y a des Francs là-bas, oui.
Oui, voilà. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que les Francs de l'Alsace-Bossu, en tout cas les locuteurs du francique, sont arrivés là-bas 1000 ans après les Francs de Clovis. Donc ce sont des très lointains cousins. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu au XVIe siècle une sorte de période abominable qu'on a appelée la guerre des paysans, une sorte de crise sociale, de guerre civile atroce qui a totalement dépeuplé la contrée. Et donc, comme cette enclave était possédée par des comtes de Nassau en Allemagne, eh bien ils ont recruté des paysans en Allemagne qu'ils ont envoyés repeupler là-bas. Et donc ce sont leurs descendants aujourd'hui qui parlent le francique, qui est une variante de l'allemand, mais qui est complètement distinct de l'alsacien et qui n'est pas non plus le haut allemand qui est devenu la langue nationale de l'Allemagne. Et donc nous avons des francs tardifs qui sont arrivés au moment où les autres francs parlaient français.
Alors on quitte l'Est pour l'Ouest.
Les anciens francs, les francs, c'est la femme, non, il y a les francs tardifs.
Direction la Bretagne avec vous, Bruno Fulini, à la découverte des mongoloïdes du Finistère. Moi qui suis bretonne, j'en ai jamais entendu parler ni par ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Pourtant, on avait du monde dans le Finistère. C'est quoi cette histoire ?
Alors, il ne faut pas confondre le Finistère Nord et le Finistère Sud.
Oh, pardon.
Voilà. Dans l'essentiel de la Bretagne, vous avez des Bretons qui, grosso modo, et sans raffiner, ont partie liée avec les Celtes. Mais il y a, dans le sud du Finistère, un territoire particulier qui est le pays Bigouden, ainsi surnommé à cause de la fameuse coiffe en hauteur que portaient autrefois les femmes dans cette partie-là. Donc, nous sommes du côté de Pont-l'Abbé, Douarnenez, le Guilvinec, vous voyez, cette partie-là. Eh bien, figurez-vous qu'en 1888, vous avez un grand voyageur, le comte Mahé de la Bourdonnais, qui a bourlingué toute sa vie en Extrême-Orient et qui vient passer quelques jours au château familial qu'il ne connaît même pas, parce qu'il a toujours vécu outre-mer.
Et il va faire une sacrée découverte.
Et il fait une sacrée découverte. Une sacrée découverte parce que lui, qui a vu toutes les populations possibles de l'Extrême-Orient, se dit « mais tiens, ces Bretons-là ressemblent pas aux autres Bretons. Ces Bretons-là me font penser aux populations que j'ai vues en Asie. » Et alors, il a publié un énorme livre où il souligne toutes les analogies entre les Bretons du pays Bigouden et les peuples de type mongol, bouriate, lapon, enfin des peuples d'origine asiatique.
Alors, d'où l'appellation mongoloïde du Finistère.
Oui, alors mongoloïde n'est pas une insulte. Hein, c'est un terme d'ethnologie, d'anthropologie, même s'il est un peu daté. Il y a eu, après l'apparition du voyage en Basse-Bretagne du comte Mahé de la Bourdonnais, toute une série de publications pour souligner, si vous voulez, et pour essayer d'expliquer cette parenté réelle ou supposée.
Mais il avait raison.
Alors,
qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut répondre à la question ?
Alors, il y a eu toutes sortes de théories. Il y a même eu en 1980 des examens génétiques qui ont été faits sous l'égide de l'Inserm, donc très sérieusement. Donc, il apparaît que les Bigoudens sont assez différents des autres Bretons, mais cousins d'autres populations celtes qu'on trouve en Irlande ou sur l'île de Man. Donc ça serait un groupe un petit peu différent. C'est moins exotique, mais il y a des explications pour dire que oui, c'est normal, parce que ces populations d'Irlande et de l'île de Man sont elles aussi, évidemment, d'origine asiatique, ce qui expliquerait tout. D'accord. Tout ce monde-là serait cousin des Lapons, et il y a même eu un marin pour trouver une explication toute simple, c'est que des gens de petite taille avec un faciès étrange, on les connaît depuis longtemps dans la tradition bretonne, ce sont les Korrigans. Et donc les Korrigans des légendes auraient été directement inspirés par l'arrivée d'un peuple cousin des Lapons ou des Mongols.
Dans votre tour du monde à travers la France inconnue aux éditions du Trésor, on découvre aussi des Écossais en plein cœur de la France, des Cagots de Gascogne et des Lombards des Vallées Alpines. Oui, tous ces gens dans notre studio dans un instant. Restez avec nous les curieux.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Un mélange de témoignages, de bonne humeur, de proximité, d'ouverture d'esprit, de partage. Voilà la recette d'On est fait pour s'entendre que l'on savoure ensemble, en direct, chaque jour, de 15h à 16h sur RTL.
Mais voilà, j'habite en France, et la France, c'est pas tout ce qu'on dit.
La curiosité est un vilain défaut.
On est quand même bien en France, on fait souvent la grève.
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Thomas belle, Thomas douce, Thomas mise, Thomas reine, toi seule qui porte le poids de nos larmes. Thomas belle, Thomas douce, Thomas oh, belle France.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
C'est vrai qu'on est bien en France, surtout quand on apprend à la connaître. Et c'est ce qu'on fait avec l'historien Bruno Fulini, qui nous fait découvrir une France habitée, nourrie par des peuples qui viennent du monde entier. On évoquait les Écossais du centre de la France. On est à quelle époque ? Comment sont-ils arrivés là, ces Écossais ? Est-ce qu'ils sont encore là?
Alors, ils sont toujours là, ils sont là depuis longtemps. Et nous sommes vraiment loin de toute frontière et loin de tout rivage, puisque nous sommes dans le Berry, dans le département du Cher, à Aubigny-sur-Nère en particulier, qui est leur centre névralgique. Alors bien sûr, la France et l'Écosse, c'est une vieille histoire, parce que nous avions un adversaire commun, qui était bien sûr les Anglais. Et donc, sous Philippe le Bel, déjà, il y a eu ce qu'on a appelé l'Old Alliance, donc un traité qui faisait que les Français en Écosse, les Écossais en France, étaient chez eux, en quelque sorte. Et que les deux peuples se devaient une assistance mutuelle et inconditionnelle.
Mais qu'est-ce qui est surprenant, Bruno Fulini, de les trouver aussi loin à l'intérieur des terres françaises, c'est ça?
C'est-à-dire qu'on est passé d'une alliance à une implantation. Pourquoi? Parce que en 1423, le roi de France Charles VII a donné la seigneurie d'Aubigny-sur-Nère, donc en plein Berry, à un Stuart, Stuart de Darnley, qui était un chef de guerre qui combattait à ses côtés, comme beaucoup d'Écossais qui se sont battus pour les rois de France. Et donc ce Stuart a fait de sa bonne ville d'Aubigny une petite Écosse, il a fait venir plein de ses compatriotes. Donc imaginez qu'au 15e, 16e siècle, on parlait comme en Écosse, à Aubigny, on parlait une variante du gaélique. On est encore une fois en plein centre de la France. Un petit peu plus au sud, il y a une localité qui s'appelle Auxigny, où là on a fait appel à des Écossais pour planter des pommiers, pour faire du cidre, etc. Et donc on les appelait les Écossais fortins, hein, parce qu'ils avaient créé une vraie forêt de pommiers. Et beaucoup de Français aujourd'hui, qui, par exemple tous les gens qui s'appellent Lockhart descendent d'Écossais qui s'appelaient Lockhart. Il y a comme cela des Écossais qui ont véritablement fait souche dans cette partie.
Donc il y a des traces, tout simplement une plantation, des noms, des bâtiments.
Mieux
des...
que ça, si vous allez à Aubigny-sur-Nère, vous verrez que la mairie est au château des Stuarts, que non loin de là, vous avez un musée de l'Old Alliance, que vous avez partout des pubs écossais, parce que vous avez partie de ces villes qui ont cultivé intelligemment leur histoire pour faire venir des touristes. Et par exemple, le 14 juillet, à Aubigny-sur-Nère, il se fête en kilt et au son des cornemuses. Et donc on salue le drapeau français, mais en même temps le drapeau écossais.
Maintenant, Bruno Fulini, on part dans le sud-ouest de la France où vous nous révélez qu'il y a à peine moins d'un siècle, encore deux humanités coexistaient, mais vraiment sans se mélanger. On parle de qui?
On parle des Cagots. Et là, c'est une histoire tragique. Oui, les Cagots qui étaient sujets du roi de France, mais qui faisaient l'objet d'une ségrégation absolue. Il ne fallait avoir aucun contact physique, organique avec un Cagot, sinon vous étiez encagoté.
Mais pourquoi ils venaient d'où, ces cagots?
Alors c'est le grand mystère. Il y a plein d'explications. L'explication la plus rationnelle serait que c'était des descendants soit de lépreux, soit de gens qu'on a pris pour des lépreux, qui avaient une maladie de peau particulière et donc qu'on a tenu à l'écart. Ce qui expliquerait d'abord qu'ils aient vécu en dehors des villes, qu'on évitait tout contact. Alors ils étaient chrétiens, mais ils avaient une entrée séparée dans les églises. Ils ne devaient pas utiliser le même bénitier que les autres.
Il ressemblait aux Français?
Alors là, on a des sources contradictoires. Pour certains, ils étaient bien bâtis. Pour d'autres, ils étaient au contraire très contrefaits, avec des visages assez bizarres, des trognes étranges, des oreilles sans lobe. Il est possible qu'étant tenus à l'écart, il y ait eu des effets de consanguinité. Ce qui fait que les derniers cagots qu'on a pu observer dans les années 60 étaient effectivement très très petits et très très bizarres. Mais ça pouvait être simplement les effets de la consanguinité.
Ils n'ont jamais été intégrés? Ils ont tout...
Si, justement. Et ça a été le grand apport de la Révolution française, c'est que ça a mis fin à des siècles de préjugés et de ségrégation. Et assez vite, les cagots se sont fondus dans la population française. On estime qu'aujourd'hui, il y a environ 2 millions de Français qui descendent de cagots. Par exemple, tous les gens qui s'appellent cordier ou charpentier, qui étaient des métiers réservés aux cagots, s'ils ont des origines du sud-ouest, descendent très vraisemblablement de cagots. Pour certains, cagots, ça serait une déformation de Cansgo, c'est-à-dire chien de Go. Ce seraient les descendants des Visigoths venus d'Espagne, donc un peuple germanique passé en Espagne et qui aurait tenté d'envahir la France.
Beaucoup d'autres surprises à découvrir, Bruno Fulini, dans votre très beau livre Tour du monde à travers la France inconnue aux des éditions du Trésor. Je dis qu'il est très beau parce qu'aussi, dans la couverture, il y a une carte qui se déplie et on découvre tous ces peuples qui racontent notre histoire. À bientôt.
Vous écoutez RTL.